France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, émission préparée avec Mélanie Chalandon, Sacha Mattei, Fanny Richer, Barthélémy Gaillard et Loïc Antoine, réalisée par Vivian Le Cuivre et à la technique ce matin, c'est Nicolas Leroulet. C'est le dernier épisode de notre série consacrée aux villes qui s'opposent aux pouvoirs centraux, aujourd'hui dans un pays européen qui, comme nous, votera cette année pour les municipales, l'Italie. Rome, Bologne, Turin, des cités en résistance. À Turin, le gouvernement de Giorgia Meloni a fait évacuer un centre social créé et investi par des militants antifascistes.
Ce que nous voyons, c'est une intervention musclée des forces de l'ordre et il nous semble clair que le maire Lorusso est en train de céder face aux volontés fascistes du gouvernement de fermer des expériences comme celle du centre social Ascatasuna. Une présence pourtant trentenaire dans le quartier Vanchiglia et à Turin en général.
L'expulsion du bâtiment occupé illégalement par Ascatasuna à Turin confirme combien la sécurité est une priorité pour le gouvernement Meloni. Avec Fratelli d'Italia, l'État revient en force et ne se laisse pas intimider par les personnes violentes.
Je sens le devoir d'être clair dans le fait de condamner avec fermeté tout épisode de violence ou d'agression survenu au sein ou en marge des cortèges de ces derniers mois. Et en particulier les attaques contre les sièges des journaux et des organes d'information, qui sont des éléments fondamentaux de la démocratie et des libertés. Mais en tant que maire d'une ville médaille d'or de la résistance et fortement engagé dans la protection des droits, je veux réaffirmer que Turin est profondément en désaccord avec les choix et avec le cadre culturel de ce gouvernement.
Le 18 décembre dernier, au petit matin, la police italienne perquisitionnait le 47 Corso Regina Margherita à Turin, en expulsait les 6 personnes qui se trouvaient à l'intérieur et a condamné depuis tout accès au bâtiment qui, depuis 30 ans, abritait le centre social Ascatasuna, un haut lieu de la mouvance autonome italienne des années 70, comme il en existe de nombreux autres en Italie, même si lui a été fondé donc un petit peu plus tard, mais il représente tous ces lieux-là. Cette opération a été justifiée par l'attaque 2 semaines plus tôt des locaux du quotidien turinois La Stampa par des militants visiblement liés à Ascatasuna. Dans les deux villes dont nous avons parlé depuis le début de cette série, New York et Istanbul, la résistance des élus, nous disaient nos invités, tient aussi dans la joie qu'ils veulent insuffler partout, dans une période où chacun se replie sur soi et sur ses opinions. En Italie, la fête est finie, dit au contraire Giorgia Meloni. Son premier acte comme présidente du Conseil avait été de faire interdire les rêves et qui fait maintenant expulser des lieux qui sont aussi des lieux d'accueil et d'entraide. À la fin de l'été dernier, le centre Leon Cavallo à Milan, cette fois, avait connu le même sort et n'a pas pu fêter ses 50 années d'existence. Dans une Italie gouvernée depuis 2022 par des partis de droite et d'extrême droite, plusieurs grandes villes sont-elles gouvernées par la gauche, que ce soit Rome, mais aussi dans le nord du pays, Turin, Milan et surtout Bologne, dont le maire ferraille régulièrement avec le gouvernement. Alors quel contre-pouvoir entend incarner ces villes qui furent jadis de véritables cités-États. Bonjour Gilles Pinson.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous et bienvenue. Vous êtes professeur de sciences politiques à Sciences Po Bordeaux. Vous avez écrit La ville néolibérale parue au PUF en 2020. Bonjour Alexandre Chabert.
Bonjour.
Et bienvenue dans ce studio de Culture Monde. Vous êtes doctorant en histoire à Sciences Po et vous travaillez sur plusieurs villes italiennes et en particulier Bologne, dont vous allez nous parler en détail. Alors pour commencer peut-être par ces événements les plus récents, l'évacuation de centres sociaux le 18 décembre à Turin et à la fin de l'été dernier à Milan. Gilles Pinson, qu'est-ce qu'on peut dire plus en détail de ces centres sociaux? Qu'ont-ils de sociaux d'abord, ces lieux autogérés?
Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces centres sociaux aujourd'hui dans les villes italiennes, ce sont quasiment des institutions, puisque la rhétorique gouvernementale de Giorgia Meloni insiste sur l'occupation illégale, sur le statut de squat. Donc effectivement, au départ, il y a un investissement de lieux inoccupés par des mouvements, souvent effectivement, comme vous l'avez dit, issus du mouvement autonome et opéraïste italien des années 70. Mais progressivement, en fait, ces centres sociaux se sont installés dans le paysage, avec des modalités très différentes d'une ville à l'autre et d'une culture politique à l'autre. Mais très, très souvent, ils sont des opérateurs, en fait, de ce que les Italiens appellent un welfare dal basso, avec un anglicisme qu'affectionnent les Italiens. C'est en gros un état-providence du bas. C'est-à-dire que dans un état-providence italien, qui, sur le modèle des états-providence méditerranéens, a des trous, recourt beaucoup aux solidarités familiales, mais ces centres sociaux ont une vocation souvent sociale d'accueil des personnes sans-abri, d'éducation, de soutien scolaire, d'accompagnement culturel, de développement social dans les quartiers. On pourra parler aussi du centre social Spin Time, qui est menacé aujourd'hui à Rome, qui a réussi à faire baisser à 0% le taux de décrochage scolaire dans son quartier. Donc en fait, ce sont des institutions qui fabriquent des prestations et des aides que l'État ou les collectivités locales sont bien en peine de fournir, et qui du coup, sur cette base-là, sont souvent dans des relations contractuelles, stabilisées là aussi depuis longtemps avec les mairies.
Avec les municipalités, là celle de Turin qui est donc à gauche, le maire de Turin, Stefano Lorusso, était plutôt dans une démarche d'accompagnement de ce lieu, Alexandre Chabert, depuis son accession lui à la municipalité, sauf que là il s'est un petit peu, on a l'impression, on l'a entendu à la fin de ce qu'on appelle le MASH, les sons au début de l'émission, on l'a entendu plutôt un peu se désolidariser de ses militants depuis qu'a été attaqué, alors c'était 2 semaines avant l'évacuation du squat, ont été attaqués les locaux du quotidien turinois La Stampa par des militants qui lui reprochent son traitement de la guerre à Gaza. Est-ce qu'on sait d'abord si ces militants qui ont attaqué les studios sont liés, le journal, sont liés eux-mêmes au centre social en question, et est-ce que c'est vraiment la raison pour laquelle le maire de Turin a dit à un moment que le pacte avait été rompu?
Oui, concernant les liens supposés entre le centre social et l'attaque donc contre le quotidien La Stampa. Bon, l'enquête est en cours. Hein.
D'accord. Donc il y a pas eu de, on ne sait pas exactement qui sont les jeunes en question.
Effectivement, ce qu'on peut ajouter, effectivement, c'est que les centres sociaux depuis leur création essentiellement dans les années 70, donc avec ces liens avec le mouvement autonome, les formes alternatives, ont souvent été une cible pour la droite. Tout de suite, après l'attaque du centre du locaux du journal, ou bien après des manifestations marquées par des heurts, souvent vous avez par exemple Matteo Salvini, le ministre membre de la Ligue du Nord, qui parle souvent de manifestants comme de delinquenti, de voyous qui viennent des centres sociaux. Alors, il y a cette mauvaise image et cette prise pour cible récurrente de la droite de ces structures, ces formes alternatives que sont les centres sociaux. Et puis concernant le maire de Turin, donc Stefano Lorusso, qui est élu depuis 2021, il était à son accession à la mairie assez peu connu, il avait une notoriété assez faible que dans une certaine mesure il a toujours. C'est d'ailleurs, moi j'étais à Turin à ce moment-là, en grande partie l'un de ses prédécesseurs à la mairie qui restait très populaire, Sergio Campalino, qui avait fait la campagne. Et au sein du Parti démocrate, on pourra revenir hein, sur le Parti démocrate qui est structuré en courant, il vient de l'aile, disons, plus modérée, issue de l'ancienne démocratie chrétienne. Donc c'est aussi ce qui explique ces prises de position plus modérées et aussi des aspects, je pense, liés à l'histoire de la ville, à l'histoire de Turin. On oublie souvent que ça a été la première capitale de l'Italie unifiée. Et il y a, de manière un peu structurante, cette difficulté pour Turin de s'opposer au gouvernement, parce que c'est s'opposer à l'État, finalement. Et cette mémoire d'avoir été la première capitale est restée assez forte à Turin.
Turin, qui a aussi été le bastion du Parti communiste italien. Qu'est-ce qu'il pèse aujourd'hui, le Parti communiste italien à Turin? Enfin, il n'existe plus en tant que tel, c'est le parti de la refondation communiste aujourd'hui. Est-ce qu'il joue un rôle aussi, est-ce qu'on le sait, à la municipalité, s'il y a quelque chose qui ressemble à une opposition plus à l'extrême gauche?
Alors, effectivement, le Parti communiste italien, qui était le parti communiste le plus puissant d'Europe occidentale, en fait, a une histoire singulière, que moi j'ai beaucoup étudié dans mes travaux, que j'étudie encore, qui est de s'être autodissous dans la foulée de la chute du mur de Berlin, qui était analysée comme la fin du communisme.
En 91.
En 91, oui.
Deux ans après la chute, du coup.
Voilà, oui, la transformation commence en 89 et se termine en 91, exactement. Et par le jeu des transformations successives, est devenu le Parti démocrate. Mais vous aviez, en gros, un tiers des adhérents et dirigeants du Parti communiste, en 89-91, qui ont refusé cette transformation, parce qu'elle débouchait sur l'adhésion au Parti socialiste européen et à l'International socialiste, et qui ont formé le Parti de la Refondation communiste, qui a atteint à son apogée environ 8% des suffrages à la fin des années 90, début des années 2000, et qui aujourd'hui est très résiduel.
Y compris dans ces grandes villes que l'on dit en résistance aujourd'hui contre le gouvernement Meloni, parce que même si le maire de Turin, Stefano Lorusso, a dit que le pacte avec les militants d'Askatasuna avait été rompu par des actes de violence, alors qu'il s'était engagé dans un premier temps dans une démarche pour faire du lieu un bien commun de la ville, eh bien néanmoins il n'a pas tellement apprécié de ne pas avoir été averti, ne serait-ce que ça, au préalable de l'intervention de la police italienne. La vice-présidente de la région Piémont, elle-même membre de Fratelli d'Italia, a présenté l'opération comme un moyen de faire imposer la loi, puisque Gilles Pinson rappelait que ces lieux sont juridiquement des squats et qu'il fallait les rendre à leurs propriétaires sous peine de devoir payer une amende, que l'État verse une amende aux propriétaires en question. Le gouvernement qui parle souvent de zones de non-droit, qu'il s'agirait de contrôler, comme si le pays avait été jusqu'à présent un tissu mité de zones livrées au chaos, comme l'écrit le correspondant du Monde en Italie, Alain Caval. Gilles Pinson, est-ce que ces opérations d'évacuation de squats, que ce soit à Turin, où il y a eu beaucoup de policiers pour 6 personnes qui étaient à l'intérieur, Milan, le centre était vide et de la même façon, une centaine de policiers étaient déployés. C'est aussi une façon de donner l'image du retour d'un État fort.
Oui, bah effectivement, dans le son que vous donniez au départ, on parlait d'intervention muscolaire, et donc c'est une manière pour le gouvernement central de montrer les muscles. C'est une manière d'enfoncer un coin entre les différentes composantes de la gauche italienne, puisqu'effectivement, cette gauche italienne est très marquée, comme l'a dit Monsieur Chabert, par un certain nombre de divisions, de courants. Voilà, c'est une manière de mettre en difficulté des maires, souvent issus du Parti démocrate, et donc souvent dans une logique de coopération-conflit avec une gauche plus radicale et plus alternative. Et puis, je pense que pour le gouvernement Meloni, c'est aussi une manière de mettre l'accent sur une espèce de retour de la légalité en Italie, et ça, c'est quand même assez nouveau, et c'est un marqueur fort, je pense, de gouvernance post ou néo-fasciste, puisque d'une certaine manière, les rapports historiquement que la droite ou le centre-droit ont eu avec la légalité étaient quand même marqués par la souplesse vers les autres composantes du centre-droit ou de la droite italienne, Forza Italia, ou ce qui reste de la démocratie chrétienne et de son aile droite, étaient plutôt marqués par une approche très souple de la légalité, ce qui se caractérisait notamment par un certain laisser-aller sur les questions des constructions abusives, des constructions illégales, par la passation de lois d'amnistie légalisant des constructions illégales. Et en fait, vraiment
l'évasion fiscale aussi est plutôt...
bien entendu. Voilà. Et le positionnement de Fratelli d'Italia, ici, est vraiment un positionnement qui lui permet de se distinguer très nettement des autres fractions de la droite, de faire vibrer la fibre propriétaire d'une population italienne qui est en train de vieillir et qui est énormément composée de propriétaires occupants. Et donc, alors ce qui se dit beaucoup en Italie, c'est qu'aujourd'hui aussi, par ses actions, Giorgia Meloni s'impose dans sa coalition à droite, qu'elle devrait vraisemblablement engendrer une crise politique avant l'échéance normale du Parlement, et donc on aura sans doute une démission, des élections anticipées, avec un pari qui est fait par Giorgia Meloni de retourner aux élections seule, sans ses partenaires de coalition, et de remporter une victoire pour Fratelli d'Italia sans être embarrassée par une coalition. Donc elle est en train à la fois de par ces actions-là, de mettre un coin au sein de la gauche, mais aussi de s'affranchir de ce qui reste de la Lega, qui est aussi affaiblie par la stratégie qu'a menée Matteo Salvini, consistant à nationaliser ce parti qui était quand même plutôt un parti du Nord et séparatiste, et de Forza Italia qui est quand même aujourd'hui très très affaibli par la mort de son fondateur Silvio Berlusconi.
Dans quelle mesure, pardon Gilles Pinson, ces expulsions sont aussi l'application de la loi qui a été votée en juin par le Sénat italien, la loi dite sécurité qui durcit les peines pour une vingtaine de délits et en crée 14 nouveaux comme la désobéissance passive, le refus de se nourrir, le refus pour un détenu de sortir dans la cour de la prison aux heures de promenade, tout ça est considéré comme de la désobéissance passive et désormais un délit susceptible de peine de prison. Est-ce que ces expulsions-là découlent directement de ce texte ?
Mais oui, enfin, en fait, en gros, on voit ici les signes d'une espèce de dérive autoritaire très nette en Italie. Alors, il y a des débats en Italie sur la question de savoir si, avec son arrivée au pouvoir, Giorgia Meloni est en train de s'embourgeoiser et de s'institutionnaliser, ou est-ce que finalement la matrice post-fasciste ou néo-fasciste est toujours là. Et effectivement, on a un certain nombre de signes de durcissement du régime, à travers, on pourra en parler aussi, la réforme de la magistrature, mais effectivement la restriction assez forte des droits politiques depuis 2024-2025, avec un ensemble de mesures que les opposants ont appelées les lois anti-Gandhi, puisque finalement, il ne s'agit pas uniquement de s'attaquer aux formes les plus violentes ou les plus radicales de d'activisme politique, mais aussi de criminaliser les formes non violentes ou passives de résistance, comme le blocage de route, comme effectivement le fait de se s'automutiler ou de s'imposer une grève de la faim, de poser une résistance passive à l'ordre public et à ses représentants. Et donc tout ça, effectivement, forme quand même un cadre général qui voit se développer une matrice fasciste de manière assez forte en Italie aujourd'hui.
Alors je ne sais pas si les métallurgistes de Bologne qui avaient bloqué les routes en juin juste après que cette loi eût été votée au Sénat, s'ils ont été condamnés, ni si Alexandre Chabert, vous qui avez arpenté Bologne de long en large et notamment qui êtes allé dans les ce qu'on appelle les cuisines populaires à Bologne, est-ce qu'elles sont également, je ne sais pas si ça fonctionne en réseau en fait, tous ces centres dits sociaux, est-ce que les cuisines populaires sont concernées à Bologne, est-ce qu'on commence à s'inquiéter dans ces endroits qui sont là aussi pour distribuer des repas aux personnes les plus précaires, mais des repas in situ et non pas en maraude. Est-ce qu'on s'inquiète de se voir un jour démantelé ou a priori ces lieux sont considérés comme moins politisés, donc moins concernés ?
Oui, effectivement, l'exemple que vous prenez, les cucine popolari, les cuisines populaires, qui sont un lieu voilà, où les personnes sans domicile fixe peuvent recevoir un repas dans un cadre voilà, fixe, manger avec de vrais couverts et toute une panoplie de bénévoles qui s'en occupent. Et plutôt une association, en fait, hein, c'est pas un centre social. Donc, elle a un statut différent. Et effectivement, après, entre les différentes associations ou centres sociaux, existent des liens interurbains, mais la plupart relèvent quand même de la ville dans laquelle ils sont implantés. Donc, dans le cas des associations et des collectifs, bien sûr, on voit l'évolution, la dérive, hein, comme disait Gilles Pinson, d'un œil inquiet et très inquiet. Mais, ne sont pas nécessairement tous menacés tout de suite, en tout cas.
Bologne, justement, on va y passer un tout petit peu de temps. 7e métropole d'Italie, 400 000 habitants. La ville de Bologne, aujourd'hui, se pense comme un contre-pouvoir à Giorgia Meloni. Son maire, Matteo Lepore, par exemple, s'est opposé à un décret qu'avait pris Giorgia Meloni sur l'immigration, dit le décret Cutro, contre lequel donc s'est battu notamment le maire de Bologne.
Cette semaine, il y a eu beaucoup de confusion sur le décret Cutro. Sur la question de l'accueil des migrants, sur la protection spéciale, le gouvernement a voulu faire un pas en arrière. Et comme par hasard, à ce moment-là, le ministre Lollobrigida parle de remplacement ethnique. Et le président du Sénat fait un peu de cirque sur la question de l'antifascisme. Nous sommes des antifascistes convaincus. Une fois cela dit, il semble que ce gouvernement n'est pas préparé à gouverner parce qu'il se défausse toujours sur l'idéologie, provoquant d'abord au moment de l'anniversaire de la libération le 25 avril, ensuite sur la Shoah. Il trouve toujours un nouveau sujet à agiter. Donc moi, je voudrais savoir, sur les migrants, que voulons-nous faire ? Sur le travail, que voulons-nous faire ? Sur le droit au logement, que voulons-nous faire ? parce que je commence à penser que le gouvernement parle toujours d'autre chose.
Matteo Lepore, issu de l'aile gauche du Parti démocrate, puisque vous nous rappeliez, Alexandre Chabert, que le Parti démocrate est divisé en plusieurs courants. Lui est issu de l'aile gauche. Quel maire est-il pour Bologne et de quel héritage se réclame-t-il? L'héritage du militantisme et de la gauche à Bologne, c'est quelque chose.
Oui, je pense que là, en entendant l'extrait que vous avez passé, on mesure l'écart dans la terminologie et dans le ton du discours, par exemple, avec celui du maire de Turin qu'on a entendu en début d'émission. Effectivement, Matteo Lepore, donc, il vient de l'aile gauche du Parti démocrate. C'est quelqu'un qui, lui aussi, au moment de son élection, était assez peu connu. Il était adjoint à la culture dans l'équipe précédente. En Italie, les maires ne peuvent pas faire plus de deux mandats consécutifs, donc son prédécesseur ne se représentait pas et c'est lui qui a pris la suite. Et j'allais dire très vite, il avait finalement été rattrapé par l'histoire et la culture, ou plutôt la contre-culture qui baigne dans cette ville. C'est-à-dire qu'il y a effectivement la ville contre l'État, le thème de l'émission, cette tradition à Bologne de culture de la différence, de se sentir, de se vivre et d'être effectivement différente et donc souvent de s'opposer au gouvernement central, y compris quand c'était la démocratie chrétienne et ses alliés qui gouvernaient, puisque Bologne, on la surnomme Bologne la Rouge, pour les teintes ocre, orangée de beaucoup de ces bâtiments, mais aussi parce que c'était historiquement le bastion du Parti communiste italien. Donc Matteo Lepore s'inscrit dans cette tradition. Vous avez rappelé la polémique au sujet des migrants, on pourrait en citer d'autres, les manifestations de novembre 2024, la Città Trenta, quand il a passé la limitation de la vie de certaines rues du centre-ville à 30 km/h et qu'il y a eu un affrontement verbal assez violent avec Matteo Salvini, ministre des Transports, ou encore récemment avec le ministre de l'Intérieur au sujet d'un match de basket entre Maccabi Tel Aviv et Bologne. Donc, il y a effectivement cette tradition-là et, à contrario, de la part du gouvernement de droite, donc de la part de la droite en général, aussi cette tendance à cibler Bologne comme étant finalement la ville de gauche par excellence, donc la ville perdue pour la cause finalement. Et finalement, le gouvernement le lui rend bien. Si vous laissez un peu dans les deux sens.
Donc, c'est au-delà de l'équipe municipale, les habitants de Bologne, qui sont pour beaucoup d'ailleurs des étudiants, tous ne sont pas originaires de la ville, mais cette ville est connue pour cette effervescence militante, et on peut citer plein d'exemples. Le mouvement des Sardines, par exemple, en 2019, en réaction à l'ascension de la Ligue de Matteo Salvini, est né, est parti de Bologne. C'est là que des librairies anarchistes, on y apporte, on prend des livres qu'on veut, c'est raconté dans un long reportage par exemple du Monde, qui parle aussi de la guérilla des noms propres dans un quartier qui s'appelle Cyrenaica. Donc c'est un parti qui a été un quartier édifié sous Mussolini, et sa toponymie se réfère à la région de l'ouest libyen, et ils organisent des treks urbains pour rappeler ce que doivent les noms de rue aux guerres coloniales du fascisme, etc. Donc il y a tout un mouvement de la base, mais il y a aussi l'église, on peut en dire un mot, Alexandre Chabert, l'église à Bologne a un lien particulier avec le Parti communiste.
Oui.
Encore aujourd'hui.
Bah, par exemple, l'actuel évêque de Bologne, Zuppi, qui était pressenti d'ailleurs pour succéder à François, hein, parce qu'il est exactement sur la même ligne progressiste et d'un catholicisme social.
Que le pape.
Que l'était, oui, François. Et une figure extrêmement populaire à Bologne, soutient beaucoup, beaucoup d'associations. Et c'est vrai qu'il y avait eu plusieurs rencontres entre le monde catholique et le Parti communiste italien au cours du compromis historique ou dans le cadre d'échanges, par exemple, personnels qu'avait le plus grand, ce qui reste comme le plus connu et le plus marquant secrétaire du PCI, qui était Enrico Berlinguer, qui avait engagé par exemple une correspondance avec l'évêque d'Ivrée près de Turin, qui avait été publiée à la fois dans les journaux communistes et dans les journaux catholiques. Donc il y a aussi cette tradition de dialogue, parce qu'on a en Italie un catholicisme social qui n'est pas l'unique forme de catholicisme, mais qui est beaucoup plus difficile qu'il ne l'est en France.
Donc cet évêque de Bologne, Matteo Zuppi, a été l'invité d'honneur au congrès du Parti de la Réformation communiste il y a quelques temps, ce qui montre que ces liens perdurent. Vous parliez de ce maire Matteo Lepore qui ferraille régulièrement avec le ministre des Transports, Matteo Salvini, de la Ligue. Lui, le maire, voulait faire circuler le tram à Bologne, parce que réancrons aussi tout ça dans des enjeux locaux, faire circuler le tram à Bologne. Est-ce qu'il a réussi à le faire malgré l'opposition de Matteo Salvini?
Oui, les deux lignes de tram qui était en construction depuis 2022, si ma mémoire est bonne, devrait être inauguré cette année, en 2026. Hein, la plupart des chantiers sont terminés. Donc, effectivement, et ça a aussi valu des affrontements, là, pour le coup, directement avec Meloni, qui lui disait oui, vous me traitez de fasciste d'un côté, mais en même temps, vous êtes bien content d'avoir les fonds que vous donne l'État pour votre tramway, là. Donc, effectivement, le tram verra le jour à Bologne cette année.
Eh bien, vous venez de citer Giorgia Meloni, on va l'entendre. Sa réponse au maire de Bologne qui, quand en 2023, quand une manifestation néofasciste devant la gare de Bologne a été bousculée par des militants antifascistes et que Giorgia Meloni a envoyé la police, laquelle aurait plutôt fait arrêter les seconds venus que les premiers, donc les antifascistes plutôt que ceux qui venaient peut-être en commémoration, ça j'ai pas bien compris, à l'attentat de la gare de Bologne de 1980 où vraiment ce sont l'enquête a été formelle, ce sont des groupuscules fascistes de l'époque qui avaient commandité l'attentat. En tout cas, le maire de Bologne a accusé Giorgia Meloni d'avoir envoyé la police.
Et guardate, ho letto. J'ai lu une note de presse du maire de Bologne qui disait « Écoutez bien, le gouvernement a envoyé les chemises noires à Bologne. » C'est la sempiternelle carte du désespoir de la gauche. Quand ils n'ont rien à mettre en avant de leur côté, quand ils n'ont pas de vision, pas de projet à proposer, alors ils jouent toujours la carte de l'adversaire imprésentable. Mais je voudrais dire que je ne sais pas à quelle chemise noire le maire de Bologne fait référence. Parce que les seules chemises que j'ai vues, pour ma part, ce sont les chemises bleues des policiers agressés par les centres sociaux et par les amis de la gauche. Et je voudrais dire autre chose en rapport avec le maire, avec sincérité. Et je veux dire une chose qui vaut pour tous les hommes politiques de tout ordre et de tout grade et de toute couleur. Je veux dire aux citoyens, méfiez-vous. Méfiez-vous toujours de qui a un visage en public et un autre en privé. Parce que je me méfie de qui me demande courtoisement en privé de collaborer avec lui et qui, devant les caméras de télévision, m'accuse d'être une méchante fasciste. Parce que si j'étais la méchante fasciste que le maire Léporé décrit, alors il ne devrait pas me demander de l'aide.
En parlant d'aide, Giorgia Meloni évoque l'aide financière, les subventions que la municipalité de Bologne reçoit de l'État. D'ailleurs, est-ce que le gouvernement italien, Gilles Pinson, quelle que soit sa couleur politique, a des outils, a le droit de couper des subventions s'il le souhaitait ?
Alors, ce qu'il faut effectivement préciser concernant les rapports entre ville et État en Italie, c'est qu'on est dans une configuration où effectivement l'histoire, le passé de l'Italie et la forte visibilité dont on parle depuis le début de l'émission des maires, visibilité politique au niveau national des maires, peut nous laisser penser que ces maires ont des capacités d'action extrêmement fortes. Mais en fait, dans les faits, si on compare notamment à la France, les villes italiennes sont beaucoup plus dépendantes des transferts financiers de l'État central que leurs homologues françaises. Alors en France, on a aussi un mouvement latent de recentralisation qui voit notamment l'État rogner un peu la fiscalité locale et remplacer les revenus de la fiscalité locale, c'est un peu technique, je m'en excuse, mais c'est important, par des transferts de l'État. En Italie, la part des transferts de l'État dans les ressources des communes est plus importante. On l'a évoqué sur les travaux comme le tram ne peuvent pas se faire sans l'apport des subventions de l'État. Donc effectivement, l'Italie est un pays qui... Excusez-moi, politiquement est relativement décentralisé, avec des maires qui sont des figures politiques nationales, mais dans lesquelles les villes sont, d'un point de vue financier, d'un point de vue technique, beaucoup moins pourvues qu'en France et beaucoup plus dépendantes des ressources de l'État et des ressources privées. Donc ça, c'est quand même important. On n'est pas non plus dans la situation française où on a depuis 20-30 ans la montée en puissance très forte de gouvernements métropolitains très fortes, les métropoles, les communautés urbaines. En Italie, même s'il y a des città metropolitane, qui en gros sont des provinces, des chefs-lieux des grandes villes, qui sont théoriquement devenus des gouvernements métropolitains, en fait ces gouvernements métropolitains sont assez faibles. Et en fait, dans le schéma de décentralisation italien, le pouvoir fort, il est au niveau des régions. Et en fait, les les villes sont relativement faibles du point de vue de leur capacité d'action et très dépendantes de l'État.
La révision constitutionnelle de 1990, par exemple, a consacré un pouvoir institutionnel très régionalisé, notamment dans le Nord. On parlait de Bologne, mais il se trouve que Bologne fait partie de l'Émilie-Romagne, qui est un modèle particulier, par ailleurs, de politique sociale. On parle de modèle émilien. Est-ce que Bologne, Alexandre Chabert, est-ce que Bologne peut se permettre d'être davantage rebelle, entre guillemets, parce qu'elle en a les moyens et parce que l'Émilie-Romagne en a les moyens ?
Oui, effectivement, vous évoquiez le modèle émilien, donc qui désigne cette conjonction d'un modèle de développement économique d'une part et de stabilité politique d'autre part, avec une région historiquement ancrée à gauche, pardon, qui a permis le développement de nombreuses politiques sociales. Ce modèle émilien est quand même entré en crise depuis le milieu des années 80, même si aujourd'hui l'Émilie-Romagne reste une région assez dynamique hein, au point de vue économique. Donc il y a cet aspect-là, mais cette tradition finalement de contestation, elle s'ancre dans une tradition historique aussi, qui est celle de la configuration sociologique de l'Émilie-Romagne, qui était historiquement une terre de métayers, d'ouvriers agricoles, et c'est le berceau finalement du socialisme. Donc le socialisme italien se diffuse à la fin du 19e siècle, avant la scission communiste-socialiste, dans ces régions de l'Émilie-Romagne. Donc la tradition de solidarité et de contestation, elle est très ancienne et elle vient aussi de ces racines historiques-là, pas uniquement des ressources économiques.
Et aujourd'hui, alors les ressources économiques néanmoins à Bologne restent importantes avec le tourisme beaucoup qui fait rentrer pas mal d'argent. Et d'ailleurs, beaucoup d'habitants de Bologne contestent, y compris les politiques de centre-gauche menées en matière de tourisme. L'agroalimentaire aujourd'hui fait vivre beaucoup la ville et la région. Est-ce que Gilles Pinson, Giorgia Meloni en joue d'ailleurs de cette relative opulence des villes qui s'opposent à elle? Est-ce que l'opposition urbain déconnecté des réalités versus périphérie délaissée est opérante en Italie, comme elle l'est en France ?
Alors, pas vraiment. Alors, certes, Giorgia Meloni pointe du doigt, effectivement, la clientèle électorale des forces de gauche, qui est une clientèle électorale de classe moyenne à fort capital culturel, mais aussi de jeunes diplômés précarisés qui vont s'investir dans les centres sociaux, et cette sociologie-là, ces groupes sociaux-là, sont effectivement plutôt concentrés dans les villes. Donc Giorgia Meloni peut avoir comme recours, comme levier rhétorique de pointer cette clientèle plus ou moins nantie ou radicalisée de la gauche, mais on n'a pas en Italie cette opposition qu'on voit émerger en France. Alors notamment depuis les Gilets jaunes, mais aussi depuis que les structures intercommunales qui gouvernent les grandes villes s'appellent des métropoles, on a vu apparaître effectivement se structurer dans le débat public une opposition entre une France de nantis, qui serait la France des métropoles, et une France périphérique, pour reprendre les termes très très discutés, très contestés, et largement invalidés du géographe Christophe Guillouis. On n'a pas ça véritablement en Italie, et ce pour plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'en Italie, les déséquilibres géographiques, socio-économiques existent, mais ce sont plutôt des déséquilibres régionaux, macroéconomiques, macro-régionaux, pardon. Faut pas oublier que la grande question territoriale en Italie reste la question méridionale, dont Gramsci parlait déjà dans les années 20. Donc en gros, le problème de déséquilibre territorial se trouve à ce niveau-là. Par ailleurs, ce qu'il faut aussi signaler, c'est que en Italie, il y a des métropoles qui marchent bien, qui sont plutôt prospères, et Bologne est un cas intéressant, parce que Bologne est la ville qui a vraiment émergé, parce que notamment elle est au centre d'une région industrialisée extrêmement puissante, mais aussi au cœur de réseaux logistiques, des réseaux logistiques italiens. Mais vous avez aussi des métropoles qui souffrent très fortement. Tout à l'heure, on parlait de Turin. Turin a un tissu économique qui s'est largement effondré depuis une trentaine d'années, autour notamment de l'effondrement du système de production d'automobiles structurée autour de la Fiat. C'est la même chose pour Gênes. sans parler bien entendu des grandes métropoles du sud que sont Naples ou Palerme, par exemple.
Alors, on n'a pas encore évoqué Rome. Gilles Pinson, on arrive bientôt à la fin de cette première partie. On n'a pas encore évoqué la capitale de l'Italie, la ville de Rome. Et il se trouve que Giorgia Meloni, d'ailleurs, est romaine. Alexandre Chabert, elle est née à Rome. Est-ce qu'elle en fait état dans ses discours, d'ailleurs?
Oui, elle aime
sa romanité.
Et oui, c'est vrai qu'elle aime bien rappeler son origine plus que romaine d'un quartier populaire de Rome, la Galbatella. D'ailleurs, nos auditeurs italophones ont peut-être senti, quand on a entendu son discours, ses aspects un peu rugueux, y compris dans sa manière de s'exprimer, qu'elle aime bien mettre en avant, que du moins elle n'essaie pas de cacher, voire parfois dont elle joue. Mais finalement, elle insiste moins sur ce caractère romain, sur sa romanité, de venir de la ville capitale, que, comme je disais, sur son extraction d'un quartier populaire, en disant finalement « je suis comme vous ». Et le Parti démocrate, le centre-gauche, ce sont les technocrates, les élites. Non, moi, je suis issu d'un quartier populaire, je suis une femme, c'est son fameux discours, son mantra, je suis une femme, je suis une mère, je suis italienne, je suis chrétienne, essayer d'être dans une forme de proximité et d'analogie.
Alors, Rome, aujourd'hui, est administrée et dirigée par un maire de gauche, Roberto Gualtieri. De quelle gauche, d'ailleurs, Alexandre Chabert, avec quel positionnement par rapport à Giorgia Meloni en particulier et à l'État en général?
Alors, Roberto Gualtieri, il vient aussi, parce qu'il a une cinquantaine, soixantaine d'années, il est assez vieux, si je puis dire, pour avoir connu le Parti communiste italien, et au milieu des années 80, quelques années avant la disparition du PCI, il avait adhéré au Parti communiste italien. Donc, à l'inverse, par exemple, d'un Stefano Lorusso, qui vient des partis post-démocrates chrétiens, lui vient donc de l'ancien PCI. Et il faut pas oublier aussi quelque chose qu'on n'a pas dit depuis le début, que les maires dont on parle, que ce soit Bologne, Turin, Rome, ont été élus en 2021. Donc quand Meloni n'était pas encore au pouvoir. Donc ils n'ont pas, c'était le gouvernement Draghi d'unité nationale, le gouvernement technique dans le contexte de crise de Covid. Ils n'ont pas forcément fait campagne sur ce thème-là d'opposition à un gouvernement d'extrême droite qui, par définition, n'était pas encore en place. Donc c'est arrivé progressivement. Et Gualtieri, c'est vrai qu'on sent depuis un an ou deux qu'il essaye un petit peu de la même manière que Matteo Lepore qui parle de Bologne comme la ville la plus progressiste d'Italie, l'emblème de l'entrée d'une ville italienne dans la transition écologique, etc. etc. Il essaie d'investir lui aussi ce champ-là avec, je dirais, moins de prise. Par exemple, quelques temps après les Jeux Olympiques à Paris, quand on avait dépollué la Seine pour accueillir les épreuves de natation, certaines épreuves, lui avait dit, on va faire pareil dans le Tibre, ce qui avait plus ou moins fait rire. Et donc, on sent, mais c'est aussi lié à plein de facteurs qu'on peut développer, mais avant tout, la vocation plus touristique de Rome, c'est-à-dire cette dimension, ces aspects qu'on a évoqués comme pour Bologne, par exemple, se retrouvent moins dans la culture romaine.
C'est vrai que le maire de Rome veut aussi voir des nageurs dans le Tibre, qui a été un lieu de baignade jusque dans les années 60, avant que les particules d'ammoniac, de métaux lourds, de pesticides, de bactéries fécales aussi ne chassent tout le monde. Ce maire, il veut construire 830 km de pistes cyclables, augmenter les zones à faible émission, etc. Rome est quand même une ville très difficile à gouverner, donc il se concentre là-dessus plutôt que sur des... Parce que lui, il dit qu'il met un point d'honneur à ne pas faire de grands discours idéologiques, qu'il agit, on le voit dans plein de... Il a des réseaux sociaux, il fait des vidéos tout le temps avec un casque de chantier pour montrer ce qu'il fait. Donc c'est une autre forme de résistance, entre guillemets, enfin, où justement il a abandonné cet aspect-là.
Oui, c'est aussi lié, il faut le rappeler, aux dimensions de ces communes. Bologne est finalement une petite ville. C'est vrai que c'est la 7e métropole d'Italie, mais le centre-ville de Bologne est assez restreint. Et il est bien évident plus facile de mettre en œuvre certaines politiques dans une ville de dimension plus modeste que dans une capitale telle que Rome. Par exemple, 700 km de pistes cyclables ou augmentation de ce qu'on appelle la ZTL, ces zones à trafic limité qui existent dans les grandes villes italiennes depuis environ le milieu des années 80, est beaucoup plus difficile. La circulation à Rome est quelque chose de très compliqué que ça ne peut l'être à Bologne, par exemple.
Soffio un venticello in questa periferia. Serata noiosa, voglio andarmene via. Io non ho niente addosso, ma per andare a casa chiederò un passaggio anche alla polizia. E mentre sto immaginando un reato, vedo lei mi fa che male.
passato mi guardi, ma non ti presenti. Dai, resta insieme a me qui per un po', 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 po'. Mia bella, bella madonnina, parlava d'amore alle sei di mattina. Canticchiava questa canzoncina, gocce di rugiada e di paroxetina. Ah, volevo venire da me questa sera. Ah, volevo Maracay e Berro. Ah, volevo venire da me questa sera. Ah, volevo una pasta al ragù. Hold on, hold on, hold on, hold on, aspetta un po'. Che non so, non so, non so, non so neanche più chi sono.
Le chanteur italien né à Milan, Tananai, et sa chanson toute récente Bella Madonnina, j'allais y arriver, Madonnina, voilà, c'est cette sculpture qui représente la Vierge Marie, qui est placée sur la plus haute flèche du Duomo de Milan, la cathédrale, et c'est donc dans cette parole, dans cette chanson, le chanteur dialogue avec elle. Milan, qui en 2021 a réélu son maire soutenu par une coalition de centre-gauche, mais pas franchement cité en modèle par le reste de la gauche italienne.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Le 16 juillet dernier, on apprenait la mise en examen du maire de Milan, Giuseppe Sala, dans le cadre d'une enquête sur des irrégularités lors de la construction de plusieurs immeubles, un scandale immobilier que la presse italienne s'est empressée d'appeler « Brickgate ». Et qui a bien fait rire par ailleurs le quotidien conservateur Il Giornale. C'est le faux modèle de la ville de gauche qui s'écroule, a-t-il écrit. Bonjour Alessandro Coppola.
Bonjour à vous.
Merci beaucoup d'être avec nous depuis Milan, où vous êtes professeur d'urbanisme à l'école polytechnique. Alors l'affaire en elle-même, elle est très technique et compliquée, et ce n'est pas votre registre. Néanmoins, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qui est reproché aujourd'hui à la municipalité de Milan en matière d'urbanisme ?
Oui, bien sûr. Comme vous disiez, c'est une affaire très très technique sur laquelle il y a plusieurs opinions aussi d'experts d'urbanisme, d'experts de loi d'urbanisme et tout ça. Mais en grande ligne, en fait, il a le mérite de souligner des contradictions par rapport au modèle de développement urbaniste, de développement de l'urbanisme de Milan. Donc, essentiellement, la question se la conceptualisation de ce que est peut-être conceptualisé comme rénovation par rapport à ce que doit être conceptualisé comme des nouvelles constructions. Donc essentiellement, à niveau régional, la Lombardie qui est gérée par la droite, et à niveau local à Milan, les pouvoirs politiques ont une interprétation très très extensive de ce que on peut considérer rénovation. Et donc, on a permis aux investisseurs de construire des immeubles qui impliquaient la démolition et reconstruction intégrale de cet immeuble, tout en le considérant comme s'il s'agissait de rénovation. Ça impliquait des facilitations par rapport à la taxe de l'urbanisme. Donc, les investisseurs pouvaient, en déclarant qu'il s'agissait de régénération, de payer moins de taxes d'urbanisme d'un côté, et impliquer aussi que la supervision des pouvoirs publics de ces projets était, disons, très très réduite par rapport, par exemple, à l'intervention de conseils de la ville et de même appareils techniques de la ville. Donc ça a beaucoup facilité la construction de nouveaux immeubles, mais disons dans un cadre où il y a bien peu d'urbanisme, disons d'encadrage d'urbanisme de ces projets, et pour beaucoup d'observateurs aussi une baisse très significative de taxes d'urbanisme que la ville aurait pu toucher si la procédure utilisée était différente, était la procédure d'urbanisme qui s'appelle permis agrégé au plan d'actuation.
Donc un gros manque à gagner. Un gros manque à gagner, Alessandro Coppola, pour la mairie de Milan. Il y a d'abord des personnes qui travaillent à la mairie de Milan dans l'administration qui auraient fourni donc à des entrepreneurs des permis de construire sans respecter les règles, pour le dire vite. Et le maire en tant que tel, lui, il aurait nommé le président de la commission paysage de la mairie malgré tous ces conflits d'intérêts avec les constructeurs dont il était informé. Est-ce que ces méthodes ont eu des effets très concrets pour la ville et ses habitants? Est-ce que les entrepreneurs ainsi favorisés, qu'est-ce qu'ils ont fait en tout cas de leur permis de construire? Est-ce qu'ils ont été autorisés par exemple à racheter des terrains qui jusque-là appartenaient à la mairie où il était question de faire du logement social?
Ah non, ça c'est en fait, ce mécanisme-là, c'était un mécanisme que regardé de seuls qui étaient de seuls privés, qui étaient de seuls la plupart de fois, étaient de seuls très très bien localisés dans la ville, où les investisseurs pouvaient générer des rentes immobilières très 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 importantes avec des constructions. Ça c'est un autre aspect assez controversé de l'enquête, avec des auteurs qui auraient à nouveau impliqué un encadrage d'urbanisme de ces projets et pas des permis accélérés comme celui qui ont été utilisé par la ville. Pas de logement social, pas du tout de logement social, parce que ça c'était à nouveau de la régénération, et donc il s'agissait de projets avec des nombres de logements qui étaient au-dessous, la plupart des fois, des niveaux au-delà desquels il est obligatoire pour les investisseurs de produire du logement social. Donc c'était vraiment toute une dynamique d'investisseurs immobiliers avec des rentabilités très très élevées et pour un marché que dans la plupart des cas était un marché pour les couches supérieures, les couches moyennes supérieures, disons.
C'est ça qui a fait dire aux journaux très conservateurs, ah ben voyez, vous aussi, à gauche, vous construisez des villes de droite, ou des villes de droite comme on les appelle. Ce sont ces journaux en question qui l'ont écrit, notamment parce que aussi le parc de logements sociaux à Milan, et c'était pour ça que j'essayais de faire un lien, mais qui n'existe pas, Alessandro Coppola, le parc de logements sociaux à Milan, il a plutôt eu tendance à diminuer ces dernières années. Pourquoi? À quoi il ressemble aujourd'hui ce parc?
Bon, il faut dire, vous parliez de cet article sur Il Giornale, c'est un magasin de droite. Donc, il faut souligner en fait que ces modèles avaient un consensus très large, et en fait, la région Lombardie, qui est la région gérée par la droite, a donné beaucoup d'outils de politique publique pour le permettre. Donc, c'était, je dois dire, une polémique un petit peu propagandiste. Parce que la ville de Milan doit respecter de lois qui sont de lois régionales, et donc ces modèles étaient très très ancrés aussi dans la législation régionale. Et en fait, la droite italienne, la droite milanaise, a jamais vraiment critiqué en soi-même ces modèles, mais l'a utilisé avec comme un moyen propagandiste. De propagande. Par rapport au parc social, il faut dire qu'en Italie, différemment de la France, il n'y a plus de politique de logement social, de politique nationale. Donc ça veut dire que le gouvernement national donne pas de l'argent aux villes italiennes et aux régions italiennes pour soit gérer la rénovation du parc social ancien, soit pour gérer la promotion de nouveaux logements sociaux. Donc il n'y a pas de véritable financement pour ces projets de logement social. Et donc soit les régions, soit les villes doit trouver de l'argent dans ces budgets qui ne sont pas véritablement capables de financer ce genre d'opérations. Donc à Milan, le problème principal, c'est un problème d'absence de rénovation d'un parc de logement social que maintenant a été réduit à 60 000, plus ou moins 60 000 logements. Il y a des milliers de logements qui sont abandonnés parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent et aussi de capacité technique de les rénover. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que depuis les années 2000, la ville ne produit pas de nouveaux logements sociaux. Donc, la dimension totale du parc de logements sociaux a baissé parce qu'il n'y a pas de nouvelle production donc d'un côté, et de l'autre côté, il n'y a pas de rénovation qui soit capable de tenir le nombre total de logements sociaux à des niveaux tout à fait stables. Et aussi, il y a aussi des ventes. Il y a aussi des ventes, quelquefois, des ventes de logements sociaux qui sont nécessaires pour les agences de logement social pour gérer la dette qu'ils ont en absence de transfert public. Ou bien, quelquefois, même pour faire des rénovations. Donc, on a des paradoxes de vendre de logements sociaux pour en rénover quelques-uns.
Donc, il n'y a pas, d'un côté, pas assez d'investissement dans la manutention, la régénération de ce patrimoine de logement social. D'un autre côté, beaucoup d'argent qui arrive à Milan, mais dans le privé, de la part d'investisseurs privés, beaucoup sont étrangers, d'ailleurs, et l'exposition universelle de 2015 a accéléré les choses, sans doute aussi les Jeux Olympiques d'hiver de cette année. Il y a des grands projets immobiliers aujourd'hui qui sont facilités. Qui sont les investisseurs en question, les plus présents dans le foncier ou dans l'immobilier milanais?
Bon, en fait, le fait le plus important dans l'urbanisme de Milan dans les dernières 20 ans, ça a été son remarquable internationalisation. Et ça, c'est un résultat politique des administrations de la droite jusqu'en 2011. Et après, la gauche a suivi absolument cette politique. En faisant de Milan un contexte très, très convenable, très, très attractif pour de grands fonds d'investissement internationaux qui sont responsables soit de grands plans d'urbanisme, de régénération de sites dans la ville, dans la périphérie de la ville, quelquefois même dans des positions quasi centrales, et aussi de cette petite opération de construction que je mentionnais au début de notre conversation. Donc, c'est important de souligner ça. La politique, ça a été une politique d'attraction vraiment radicale d'investissements internationaux. Et en fait, un des aspects qui ont été soulignés dans tous ces débats par rapport aussi à l'enquête, c'est le choix politique de la ville de Milan de ne pas augmenter le niveau de taxes d'urbanisme depuis des années. Même en baissant ces niveaux de taxes d'urbanisme avec les procédures que je mentionnais.
Merci.
Donc, ça a été une politique d'attraction. Ça a été vraiment le principe guide de la politique.
Merci beaucoup. Et des flux d'habitants qui délaissent la ville pour le reste de l'ère métropolitaine. Une population toujours plus riche d'un côté et toujours plus polarisée, parce que beaucoup de personnes beaucoup moins aisées également dans la ville de Milan. En témoigne le quartier ouvrier de l'Isola qui a été en partie rasé et où se dresse aujourd'hui le siège italien de Google. Merci beaucoup Alessandro Coppola d'avoir été avec nous, professeur d'urbanisme à l'École Polytechnique de Milan. On arrive à la fin de cette émission. Alexandre Chabert, un mot sur la perspective des municipales, les villes dont on vient de parler. Est-ce que la gauche, les maires de gauche qui sont en place ont plutôt des chances de remporter encore la mairie?
Alors, il devrait pas y avoir de grandes difficultés pour Matteo Lepore à Bologne, si on se base y compris sur les résultats des dernières élections régionales en 2024, où l'Emilia Romagna est restée à gauche à plus de 60%, et les résultats aussi à Bologne sont du même acabit. Je suis plus indécis pour Turin, parce que la ville aujourd'hui n'a pas de perspective d'élan telle qu'elle a pu le connaître il y a une vingtaine d'années, par exemple, dans le contexte des Jeux Olympiques d'hiver. Donc, Lollobrigida pourra mettre en avant sa bonne gestion, mais il risque d'être un peu plus en difficulté. Et là aussi, les élections des régionales de 2024 laissent, à contrario, un peu plus inquiet.
Merci beaucoup, Alexandre Chabert, doctorant en histoire à Sciences Po, d'avoir été avec nous dans Culture Monde. Et je remercie Gilles Pinson, également professeur de sciences politiques à Sciences Po Bordeaux, qui a écrit La ville néolibérale au PUF. Merci d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Un milliardaire chinois accusé de superviser des centres de travail forcés pour des arnaques en ligne, on en parlait dans Culture Monde d'ailleurs récemment, a été arrêté, Catherine Dutu, au Cambodge.
Shenji, le chef présumé de l'un des plus grands réseaux d'escroquerie d'Asie, a été extradé vers la Chine, annonce The Phnom Penh Post et le Wall Street Journal. Shenji, ressortissant chinois de 38 ans, est accusé de superviser des centres de travail forcé pour des arnaques en ligne, des arnaques sentimentales, financières et autres, ciblant des victimes aux États-Unis et en Chine notamment, précise le Wall Street Journal et la BBC. Les enquêteurs américains avaient saisi le mois dernier des bitcoins d'une valeur de 15 milliards de dollars appartenant à Shenji. Il aurait usé de son influence politique au Cambodge et corrompu des fonctionnaires dans plusieurs pays d'Asie pour protéger ses activités illicites, souligne le Washington Post et The Diplomat. Selon l'ONU et des organisations de défense des droits humains, 150 000 personnes originaires d'Asie et d'Afrique ont été attirées au Cambodge par la promesse d'emplois légitimes, lucratifs dans le secteur technologique ou de simples centres d'appel, mais en réalité ces personnes sont devenues victimes de trafic d'êtres humains, retenues en captivité dans de vastes complexes situés à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande, de hauts bâtiments entourés de barbelés, décrit le New York Times, des barreaux à toutes les fenêtres pour empêcher les travailleurs forcés de s'échapper. Dortoirs bondés, ajoute ABC 7 News et le South China Morning Post, une main-d'œuvre traitée comme des esclaves, forcés de travailler de l'aube jusqu'à minuit sous la menace physique, comme en témoigne un jeune Thaïlandais de 18 ans. Au début, les recrues n'étaient pas soumises à des violences physiques car elles étaient nouvelles. Mais rapidement, les réprimandes ont dégénéré en coups. Chocs électriques, intimidations et menaces de mort, raconte ce jeune Thaïlandais de 18 ans au South China Morning Post. Il y avait parfois des réunions où les chefs disaient alors « Qui n'a pas assez travaillé aujourd'hui? Qui va être battu ?» Ambiance étouffante, oppressante. On était constamment surveillés. On devait taper à l'ordinateur jusqu'à ce que nos yeux soient fatigués, jusqu'à ce que notre vision se trouble, ajoute le jeune homme. Mais si on ne travaillait pas assez, on nous dénonçait, on nous frappait. Un jour, j'ai pu sauter du 8e étage, se souvient le jeune Thaïlandais. Je me suis ouvert le menton, ma bouche était remplie de sang, il y en avait partout, dents cassées, jambes blessées, je me suis évanouie. Et quand je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital. À ce moment-là, peu m'importait que je meure ou que je survive, confie cet ancien travailleur forcé, ex-employé d'un centre d'arnaque en ligne au Cambodge, ce jeune Thaïlandais. Précise le South China Morning Post, a fini par s'échapper. Amnesty International a pu recueillir les témoignages de 58 survivants de ces centres d'arnaque en ligne au Cambodge, dont 9 enfants. Un autre est mort, déplore le South China Morning Post. Amnesty estime que les interventions des autorités cambodgiennes, des forces de l'ordre, sont trop limitées et parfois liées à de la corruption.
Et ces centres sont devenus légion au Cambodge depuis la pandémie de Covid.
Avec des casinos, des hôtels désertés, transformés en sorte d'usines cybercriminelles, indique la BBC et le quotidien japonais Asahi Shimbun. Ces centres d'arnaque en ligne se sont aussi développés en Birmanie et au Laos, note le South China Morning Post. La chaîne télévisée britannique Channel 4 News a pu se rendre dans l'un de ces centres birmans sous haute escorte de rebelles armés dans un pays ravagé, on le sait, par la guerre. Et là, le long de la frontière avec la Thaïlande, d'immenses immeubles de bureaux remplis de centaines d'ordinateurs, de milliers de téléphones portables, tous utilisés pour commettre des arnaques en ligne au profit de gangs chinois, explique Channel 4 News. La chaîne britannique a même découvert un faux salon servant de décor pour les appels vidéo avec les victimes, une bibliothèque en arrière-plan où seuls se trouvent des livres en plastique sur les étagères. Des piles de carnets aussi où des escrocs ont griffonné des conseils sur la façon d'engager des conversations avec des hommes et des femmes dans le monde occidental. Parmi les questions, quelle rivière à Miami est la meilleure pour pêcher, peut-on lire sur l'un de ces carnets. Au Cambodge, les travailleurs étrangers retenus contre leur gré ont aussi été contraints de travailler malgré les affrontements le mois dernier avec la Thaïlande, alerte le Wall Street Journal. De nouveaux accros sont survenus d'ailleurs à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande malgré un cessez-le-feu conclu il y a une dizaine de jours. Des tirs cambodgiens ont blessé un soldat thaïlandais mardi. Violation du cessez-le-feu, rapporte le Bangkok Post. Le Cambodge parle lui, de tirs accidentels et dénonce, dans le même temps, des incursions alarmantes de la part de l'armée thaïlandaise, titre le Khmer Times. 700 000 hommes, femmes et enfants ont été déplacés par les combats entre la Thaïlande et le Cambodge. Leur retour est compliqué, périlleux, à cause d'obus d'artillerie non explosés, détaille le Bangkok Post. Ces obus sont éparpillés dans les villages, les fermes, les plantations de caoutchouc et les champs de manioc, risquant de tuer des civils à chaque instant.
Merci beaucoup Catherine Dutu. Demain dans Culture Monde, Mélanie Chalandon recevra le journaliste Pedro Brito da Fonseca pour un retour d'Haïti. Il signe un reportage pour Arte, Haïti, un pays dans l'abîme. Retour de terrain suivi d'une table ronde consacrée à une réflexion sur l'avenir de la diplomatie avec des ambassadeurs ou anciens diplomates au lendemain de la conférence des ambassadeurs. Et puis la semaine prochaine, alors que l'Union africaine a déclaré ouverte en 2026 la décennie de la réparation, il sera question de la quête de réparation d'États anciennement colonisés, Niger, Namibie, les États anglophones de la Caraïbe et l'Algérie. Et c'est Mélanie Chalandon que vous retrouverez toute la semaine. Alors à bientôt.